Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements, dans le Tarn et la ville de Gaillac qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh bien, c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ».
Bonjour, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, ben on est à la terrasse, ah, on est à la mi-octobre, moi je suis en short, pieds nus, et puis ben, il fait super bon, super oui. Bon.
Et moi j'ai mis ma canadienne.
Ah oui?
Ah oui, il n'y a que 17 degrés. Hein.
Une canadienne ou une québécoise?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas? Ok, non, d'accord.
Je n'ai pas demandé son passeport.
Ok. Bien, ben, toutes nos excuses pour cette absence, c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis un mois. On va s'assurer que ça ne se reproduise pas. J'en prends toute la responsabilité.
Parole de jardinier.
Parole de jardinier, oui. Et puis voilà. Il y a eu des activités qui ne m'ont pas permis de prendre le micro à ce moment-là. Et donc voilà. Mais on se retrouve et c'est ça l'essentiel.
Pourtant, tu n'étais pas amputé d'une main. Hein.
Non, des deux. Des deux.
Je ne recommencerai plus.
Bien. Aujourd'hui, lors du dernier épisode, eh bien, on avait parlé de l'arrosage. Même si on n'a pas fini d'en parler, compte tenu de l'évolution du climat, il semblerait quand même que l'année 2022 soit une des années les plus chaudes, si ce n'est la plus chaude, répertoriée depuis que l'on mesure ces températures.
Ouais.
Hein. Donc c'est pas mal. Et en plus, la semaine prochaine, ils annoncent une semaine très chaude. Et puis pendant ce temps-là, bah nous dans notre région, en Provence verte, l'eau se fait toujours rare. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Alors qu'en Côte d'Azur, du côté de Nice, eh bien, il est tombé 100 mm. Voilà.
Sur Nice.
Et c'était incroyable aussi. Et puis bah, évidemment, avec l'érosion des sols, l'artificialisation des sols, etc. Eh bien, cette eau a du mal à pénétrer dans nos terres. Et donc, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, quelques petites nouvelles par rapport au podcast. On va évoluer. On s'est dit qu'on allait sortir un peu de chez nous et puis de voir justement autour de chez nous ce qui se faisait. Et donc, on a été rencontrer des pépiniéristes, des maraîchers dans notre région. Et puis, on a l'intention de discuter avec eux et de voir un peu justement comment eux, ils abordent la situation de ce dérèglement climatique, comment ils l'intègrent dans leur pratique. Et puis, quel avenir ils ont, ou quelle vision, quelle perspective ils ont de leur métier et de l'évolution de leur métier. Donc voilà.
Et puis en même temps, on leur demandera des conseils pour les jardiniers amateurs. Parce qu'il y a quand même deux choses qui se passent au niveau du jardinier amateur. C'est la disparition des papis, des papis jardiniers. Beaucoup de gens ont envie d'aller vivre à la campagne. Mais ce n'est pas obligatoirement pour cultiver des carottes et des poireaux. Hein, c'est simplement aussi pour être dans un hiver végétal et à l'abri un petit peu de l'urbanisation. Mais est-ce qu'il y aura encore, dans 10 ans, dans 15 ans, des gens qui voudront s'adonner au jardinage alimentaire, compte tenu des difficultés qui vont être de plus en plus importantes dans cette culture?
Il y a plusieurs questions, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui seront intéressés ou est-ce qu'on sera obligé de le faire aussi parce que justement, il y a des phénomènes extérieurs qui peuvent intervenir.
Jamais, ça peut arriver.
Oui, comme le coût de la vie, par exemple, où les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter une certaine alimentation, etc. L'accessibilité aussi, qui est un gros problème. Donc voilà, le monde bouge, la vie est toujours en mouvement permanent. Et il faut qu'on en prenne compte. Et nous, on doit, en tant qu'humains, s'adapter à cette situation, car nous n'arriverons jamais à la contrôler.
J'aime bien ce mot permanent. On voit que c'est permanent tous les jours. Hein? Après l'Ukraine, maintenant, c'est l'Arménie qui est en train de se faire agresser. C'est marrant parce qu'il y a 70 ans, on disait plus jamais ça.
Bien.
Sans commentaire.
Sans commentaire. Bien, on va retourner à différentes techniques d'arrosage.
Oui, ok.
Ah.
Yes, ah. Sir.
Tu vas nous partager justement des techniques différentes et puis on commence par un voyage.
Je vais vous partager. Non, je vais vous parler.
Ah, ok. Vas nous parler de techniques qui venues d'ailleurs. Hein? Tu vas nous emmener en Chine, en Afrique du Nord, en Iran. Enfin, en Iran, en ce moment, c'est peut-être pas le moment. Mais en Amérique du Sud, etc. Raconte-nous un peu.
Oui, on va être obligé de faire plusieurs voyages parce qu'on n'ira pas tout en même temps. Hein? Bon, passons. Arrêtons de dire des bêtises. C'est vrai que depuis quelque temps, on reparle dans des différentes revues de jardins de l'arrosage à l'aide de jarres en terre cuite ou OYA, hein, O-Y-A-S ou OLA, avec deux L, A-S. Ces jarres sont enterrées à proximité de végétaux à arroser. Alors c'est une technique ancestrale plutôt méconnue, mais pas nouvelle apparemment, hein, selon les auteurs. Elle daterait de 2000 ans, voire plus. Alors comme tu viens de le dire, en Chine, Afrique du Nord, Iran, Amérique du Sud, trois points d'interrogation, et elle serait encore utilisée dans certaines de ces régions. La chasse est ouverte.
Oui. Ce matin, il y a eu des feux d'artifice à droite, à gauche.
J'espère que ça ne nuira pas à l'enregistrement de cette très belle émission.
À moins que s'ils nous tirent dessus, mais je pense pas, non. D'accord. Non.
Bon, donc on utilise déjà en terre cuite, microporeuse, enterrée près des plantes que l'on veut alimenter avec de l'eau non calcaire de préférence. Sinon, vous comprendrez qu'il y a une obturation, j'ai dit du premier coup, obturation de la porosité. L'eau va passer dans les parois poreuses des jarres pour diffuser dans le sol à proximité des racines. Les jarres peuvent avoir des volumes différents, hein, plus ou moins 2 litres à 10 litres, ça dépend des fabricants. C'est un procédé économique, voire jusqu'à 50%, 70% d'eau économisée. En effet, ça permet de maîtriser la quantité en eau qu'on met. Mais par contre, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'il y ait toujours un peu d'eau dans la jarre, hein, pour pas qu'elle sèche de trop. Mm-hmm. Et par contre, ne pas la remplir trop souvent jusqu'en haut, parce que vous comprenez que la pression de l'eau, hein, si c'est par 10 litres par exemple, mm-hmm. la pression du haut de la jarre va faire accélérer la libération de l'eau dans le sol. Donc il vaut mieux que ça soit à moitié, hein, qu'il y a un minimum. C'est à vous de voir un petit peu, parce que vous comprendrez que c'est quand même un matériau. Bien sûr, les gens qui fabriquent ça sont des spécialistes et ils calculent leur mélange. Enfin, ils produisent un mélange adapté et un temps de cuisson adapté aussi pour ne pas qu'il y ait des porosités trop importantes ou pas assez importantes. Hein. Mais d'une jarre à l'autre, il peut y avoir une petite différence.
C'est marrant l'histoire des jarres parce que j'avais entendu, je crois que c'était justement du côté de l'Arménie ou quoi que ce soit, pour le vin.
Le vieillissement.
Oui, le vieillissement, mais en plus, ils enterraient les jarres.
Mmh, ouais.
Et c'était une vinification un peu.
Il y a eu une émission à la télé récemment, je ne sais pas si c'est sur la 7 ou sur la 5, à ce sujet. Ils ont montré les fabricants de jarres. Il y en a d'autres aussi qui les immergent. Hein, ils sont en immersion.
Ouais.
Okay. Ouais, pourquoi pas? Bon, le seul problème, c'est que je ne sais pas s'il existe déjà aussi avec des contenances aussi importantes que les fûts. Je ne sais pas. Il y a certainement un autre problème qui va être le coût.
Tout à fait. Bon. Ouais. On en revient toujours là.
Exactement. Bon, d'autant que le vin qu'on a dans les fûts ne s'avère pas mauvais. C'est une autre technique. Bon.
Exactement.
Un peu plus ancienne, certainement. Bon alors, je reprends, attention, s'assurer de la bonne perméabilité des jarres, hein, plutôt plus perméable que moins, pour un bon fonctionnement, c'est ce que je viens de dire, hein, ne pas attendre que les jarres soient vides, les remplir à moitié pleine est la bonne solution. La pression de l'eau booste la perméabilité, donc plus vous mettez d'eau, plus la dispersion de l'eau est rapide.
Hein. Mais pour savoir la perméabilité des jarres, tu vas acheter ça chez un fournisseur, mais il y a des spécialistes, comment ça fonctionne?
Alors, a priori, il y a des spécialistes. Est-ce qu'ils savent déterminer au départ, ils ont dû faire des essais, hein, parce que pour contrôler sur leur critère de la chaleur qu'ils ont utilisé pour cuire les jarres, hein, et le produit qu'ils ont, je pense qu'ils ont dû faire des essais. Sinon, ça, je ne vois pas comment ça m'a remarché.
Mais tu n'achètes pas la jarre n'importe où.
Tu n'achètes pas la jarre n'importe où. Dans les grandes surfaces, vous allez sur Internet et vous allez voir qu'il y a tout un tas de diffuseurs de jarres, comme pour les portes-jartelles hein, ou les cacahuètes volantes.
Eh ben dis donc.
On trouve de tout hein, sur Internet.
Oui, ouais, 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 c'est incroyable, c'est incroyable. Ça serait venu d'un jeune, on aurait été choqués.
Mais d'un vieux, c'est...
D'un sage,
oui,
c'est encore plus choquant.
D'un vieux, c'est plutôt grave. Bon, passons, d'accord. Alors, les inconvénients. Installation peu ou pas très mobile, hein, parce que si vous avez des jarres de 10 litres, hein, bon, il faut les sortir, faut les enterrer, il faut sortir de terre. Hein, les matériaux en terre cuite, c'est fragile. Attention de ne pas casser les jarres avec, quand on bêche ou quand on sarcle ou quand on pioche. Hein. Voilà. Alors, j'ai vu aussi chez un ami jardinier des cuvettes de plantation.
Kézako.
Alors, des cuvettes de plantation, elles sont carrées ou rondes, en plastique. Très bon matériau.
Ouais, ouais.
Vous avez un pot de plantation au milieu, un trou de plantation qui permet de planter la plante dans la terre. Et tout autour, une espèce de couronne, hein, carrée ou ronde, qui est un réservoir d'eau. Mais ce réservoir n'est qu'un réservoir provisoire parce qu'il est percé. Mais ça vous permet, quand vous allez arroser, par exemple, au pied de tonnage ou de tomate, de savoir si vous mettez bien à 5 pieds 1 litre, 2 litres, 3 litres ou 5 litres d'eau, hein, quitte à re-remplir une fois ou deux fois la couronne en question. Hein. Le gros avantage, c'est que ça vous permet de doser correctement vos arrosages, votre quantité d'arrosage, hein. D'où une certaine économie, parce que souvent, quand on commence à arroser, on met beaucoup, et puis au bout d'un certain temps, comme on en a marre d'arroser, on réduit un peu. Donc là, ça permet de bien regarder. C'est comme dans les jarres du dessus. Hein, ben, on sait que vous allez mettre, par exemple, un demi-arrosoir dans chaque jarre. Là, vous allez voir, vous remplissez votre couronne, vous savez combien elle contient. Vous pouvez la remplir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, selon les besoins.
Et... Pourquoi c'est l'avantage du plastique dans ce cas-là et parce que c'est quoi c'est ce que, parce que tu peux faire tes propres trous et la taille de tes trous.
Je pense que l'avantage du plastique, y a pas de, c'est un avantage, ce serait en ferraille, ce serait pareil.
Exactement. Donc à la limite, on pourrait imaginer prendre un truc qui serait en poterie
voilà.
ou en ferraille voilà. ou quoi voilà. que ce soit.
Peut-être et puis, qu'un jour, on fera des choses comme ça. Hein, ces espèces de gamelles, on les fera en poterie, peut-être. Hein, bon.
Et peut-être qu'on peut utiliser justement, on peut recycler quelque chose qu'on n'utilise plus en cuisine ou quoi que ce soit. Je sais pas moi, une poêle ou une vieille casserole, et puis faire des trous dedans. Et
oui, alors oui et non, parce que si on utilise une vieille casserole, on va faire un trou au milieu. Dans le produit qui est proposé, là, il y a un rebord autour du trou de plantation qui évite que l'eau aille directement et rapidement, ce qui fait que tu vois pas la quantité d'eau que tu mets dedans, alors que la couronne qui est autour fait un petit peu réserve.
D'accord.
Parce qu'il y a des trous pour que l'eau s'écoule progressivement, mais pas rapidement, de façon à voir la quantité d'eau que tu mets réellement au pied de la plante.
D'accord.
Compris ?
Donc il faut qu'il y ait une forme.
Voilà. Alors je pense on sait tous qu'on n'est pas pour le plastique, mais c'est peut-être aussi une bonne occasion de le recycler.
Exactement.
Là on a une gamelle qui est utilisable et pendant une vie de jardinier. Hein.
D'accord.
Voilà.
Ensuite.
Alors.
On reste dans le plastique.
Hein. Alors on voit aussi dans certains jardins des bouteilles de plastique enterrées d'une dizaine de centimètres, hein, le plus souvent au pied de tomates. Ou autres végétaux très espacés. C'est le même principe que ci-dessus, hein, que ci-avant, pardon. Mais le bouchon de la bouteille est percé de un ou plusieurs trous. Par contre, il faut faire des essais avant la mise en place pour voir si l'écoulement n'est pas trop lent ou trop rapide. Et on est obligé de reprendre la bouteille pour le remplissage.
Okay.
Bon. Mais par contre, hein, inconvénient, y a une instabilité à corriger hein, par le vent, les animaux par exemple. Si ton chien passe dans le carré de potager et qu'il fout les bouteilles en l'air, bon, on peut mettre un petit piquet à côté puis une ficelle hein, ou un élastique pour la tenir. Bon, ça, c'est facile à faire. Alors par contre, moi, j'ai utilisé cette technique-là quand je partais en vacances. Parce que ça vous permet de mettre dans vos pots, par exemple, dans vos pots chez vous, de mettre cette bouteille-là, hein, de la remplir. Vous faites un écoulement très progressif, très lent. Ça vous évite d'appeler la belle-mère ou la voisine d'en face pour venir arroser vos pots de fleurs. Et puis bon, quand vous rentrez, vous récupérez vos bouteilles. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit très décoratif, même au jardin. Hein. Mais ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Mais à vérifier l'écoulement, à vérifier bien calculé.
On est bien d'accord qu'on utilise le cul de la bouteille, pas le haut avec le goulot ou quoi que ce soit.
Si. On utilise toute la bouteille et c'est le bouchon qu'on perce. Le bouchon est planté dans le sol.
Ah d'accord, donc la bouteille
est renversée, elle est retournée.
Elle est retournée.
Voilà, c'est ça.
Et les trous sont dans le bouchon.
Voilà. Et pour remplir la bouteille, ben on sort la bouteille, on défait le bouchon, parce que si on a ce bouchon, on ne peut pas remplir la bouteille.
Après, c'est bouché.
Je suis quand même sacrément bon conseil. Hein.
Ouais,
bon,
toi.
Bon, papa, ça ne s'est pas amélioré, malgré un mois et demi de vacances, ça ne s'est pas amélioré.
Donc,
c'est quelque chose qui peut être pratique, surtout, à mon sens, quand on s'en va en vacances pour ses plans d'intérieur. Au jardin potager, c'est peut-être un petit peu plus, un peu moins joli et un peu plus délicat.
Voilà. D'accord. Ok.
Alors, tout ça, ça peut être des solutions pour arroser ponctuellement des plantes qui ont besoin d'un peu d'eau dans nos futurs jardins secs, par exemple.
Ouais.
Ou même au potager. Hein. Bon. Je sais pas, par exemple, entre les pieds de tomates, on peut partir du principe qu'on peut planter pieds de tomates au lieu de 50 cm, les mettre à 1 mètre et mettre une jarre entre chaque pied de tomate, par exemple, ça arrosera les deux tomates à la fois.
Hein.
C'est une question. Après, c'est une question d'adaptation à son terrain, à son environnement, ses besoins. Hein. Et puis ses envies, puisque parce que je reviens sur le prix des jarres. Je me souviens pas du prix des jarres que j'avais vu sur Google là, et compagnie. Mais elles ne sont pas données, hein, c'est quelque chose à faire de façon progressive. Et puis pour des plantes qui en ont vraiment... je pense au pied de tomate, parce que le pied de tomate est une plante qui est espacée, souvent. Donc ça permet de mettre la jarre entre les deux facilement.
Mm-hmm. Hein.
Mais l'année suivante, théoriquement, on ne doit pas replanter les pieds de tomate au même endroit.
Ah oui ?
Ben oui, à cause de la rotation des cultures.
Ah d'accord.
Hein, à cause de l'épuisement, les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes racines n'épuisent pas le sol de la même manière, n'épuisent pas les mêmes organes, on en reparlera plus tard, hein, n'épuisent pas les mêmes minéraux dans le sol.
Hein. Ok.
D'accord. Bon, c'est pour ça que la culture sur but, mélanger les légumes entre eux, a un certain avantage aussi. Hein. Mettre par exemple un pied de tomate tous les 20 mètres 50 et puis planter des plantes intercalaires qui vont épuiser le sol différemment du pied de tomate, hein, ça peut être intéressant. Hein.
Ouais,
ça évite la rotation.
Mais il y en a qui ne vont pas ensemble par contre. Il y a des mariages qui ne se font pas.
Alors, il y a des plantes compagnes et il y a des plantes qui ont des propriétés répulsives et puis il y a des plantes qui ne se supportent pas.
C'est comme nous.
Oui, mais nous c'est pire.
On supporte, nous deux. Allez.
Alors, mon avis. Hein, bon, ces techniques sont intéressantes, certes, mais elles demandent un peu de temps au jardinier pour installer, sauf si définitif, déplacer le cas échéant, remplir régulièrement. C'est pas toujours facile. Les avantages, dosage et fréquence, hein, l'un avec l'autre, efficacité, because économie.
Mm-hmm.
Hein, bon. Voilà. Et puis, pour clore cette petite intervention...
Mon ennemi numéro un.
Pardon ?
Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, là, quand j'étais gamin, la binette, j'en avais horreur. Quoi. C'est chiant.
C'est pourtant un outil... ça s'est considérablement amélioré. La binette, le manche ne fait plus 1m10 ou 1m12. Hein, le manche s'est allongé, on peut biner de façon presque droit. Il y a des binettes à pousser aussi, hein, comme un détrier de cheval. Hein, bon, il y a tout un tas d'améliorations. Hein, bon. Non, c'est, bon, alors, tiens, à propos de la binette. Hein, vous vous rappelez qu'un binage vaut deux arrosages ? Est-ce que vous vous en rappelez ?
Non, moi, pas du tout, non.
D'accord. Bon, le binage... Pourquoi on dit ça ? Parce que le binage décompacte, le sol de façon superficielle. Il diminue ainsi les remontées capillaires. Hein. Limitant les remontées capillaires, ça limite l'évaporation. Hein, et ça permet au sol de mieux absorber l'eau de pluie ou d'arrosage. Les racines profiteront de ces petits espaces pour pénétrer le sol et absorber l'eau en réserve. En fait, ça permet une meilleure circulation de l'eau dans les interstices naturels du sol.
Et là, on voit très bien comment les sols sont compacts.
Exactement.
Avec la sécheresse et que quand il y a un petit peu de pluie ou quoi que ce soit, ça coule, voilà. Ça ne pénètre pas.
Au lieu de se pénétrer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'anfractuosité, il n'y a pas d'interstice qui permette à l'eau de pénétrer le sol. Mmh. Alors, il y aura toujours des sols compacts à un endroit ou un autre, un moment ou un autre, mais c'est pour ça que jouer de la binette ou du sarcloir, de façon à décompacter le sol superficiel, c'est très intéressant, c'est positif. Voilà.
Ok.
La capillarité du sol, la définition, c'est un processus de déplacement de l'humidité et de l'eau dans les petits espaces existants entre les particules du sol. Dans le sol, il y a des particules plus ou moins grosses. Eh bien, entre ces particules, il y a des interstices, et ces interstices, l'eau le met à profit pour pénétrer le sol. Et les racines aussi, parce que les racines suivent. Si l'eau descend, les racines, elles vont chercher l'eau en dessous aussi. C'est quand même très intéressant. Donc ça, c'est... Alors, il n'est pas question de biner tous les jours, mais dès qu'on voit, comme tu disais tout à l'heure, le sol un peu compact, c'est pour ça que l'intérêt, on revient toujours à l'histoire du paillage, c'est pour ça que le paillage a beaucoup d'intérêt, parce qu'il évite le durcissement superficiel du sol, soit par le battage de la pluie, soit par le vent qui glace le sol, soit par la sécheresse.
Ah oui.
Alors, on en reparlera du paillage, mais le paillage, il y a une évolution à cause du climat. Avant, le paillage, c'était bien parce qu'il pleuvait, le paillage mouillait, bon, l'eau passait au travers. Maintenant, le paillage, pour qu'il soit mouillé, il faudrait qu'il pleuve. Bon. Et s'il n'est pas mouillé, le paillage, il va se décomposer beaucoup moins vite. Il va durer plus longtemps dans le temps, mais au lieu de participer à la fertilisation du sol par sa décomposition, ça va être plus lent. Quand on voit ici, par exemple, les chênes verts, ça tombe au sol, il faut au moins 3 ans pour que les feuilles des chênes verts soient réduites, se transforment en humus, en matière organique, qui va se dissoudre dans le sol et qui va être assimilable par les végétaux. Hein. C'est ça qu'elle... Bon, avec de l'herbe, ça va c'est un peu plus rapide, mais si avant, on partait du principe qu'un compost pouvait se faire en l'espace de 8 mois, 12 mois dans un composteur, combien de temps il va mettre maintenant ? Est-ce que le composteur va se transformer en four ?
En séchoir.
En séchoir. Quand on met la tête dans le composteur, on ne peut pas passer son temps à arroser le composteur non plus. Alors est-ce qu'on ne va pas être obligé de trouver une solution, de revenir peut-être à la solution qu'utilisaient nos grands-parents ? C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais môme, mon grand-père, il compostait, mais on n'employait pas ce mot-là. C'était le tas de fumier. Mmh. Et souvent, le tas de fumier était enterré dans le sol. Il était enterré 30, 40, 50 cm dans le sol. Bon, il y avait un inconvénient, parce que quand il pleuvait, ça pouvait faire aussi réservoir dans des sols un peu argileux. Ça pouvait faire réservoir d'eau, et puis le fumier baignait dans le jus. Mmh. Et avant que l'eau... Bon, il y avait le revers de la médaille. Mais maintenant, est-ce qu'on ne va pas être obligé de revenir à ça pour que le compost soit au moins protégé des chaleurs périphériques, parce que dans le composteur, ça cuit dessous, mais ça cuit aussi des quatre côtés sur le dessus et à l'intérieur. Alors est-ce qu'on sera pas obligé, mais bon, ça c'est en aparté.
Et puis moi je commence à laisser ouvert le couvercle des composteurs, parce qu'il y a la rosée du matin. Ça apporte un peu d'eau, mais...
Bon, il y a l'atmosphère ambiante, mais... C'est pas...
Parce que c'est de temps super en temps, sec, hein.
Moi, je pense qu'il faut mettre au moins un arroseur de 10 litres de flotte par semaine, quoi.
Ouais.
Et puis surtout, pas oublier de mettre tout ce qui est... Tous les déchets alimentaires aqueux. Hein, mais toutes les épluchures qui sont vraiment très, très aqueuses. Hein, où il y a 70, qu'ils sont gorgés d'eau.
Ouais.
Et puis mélangés.
Parce donc des fruits,
ouais, les fruits, les épluchures de carottes, de pommes de terre, de poireaux, de machin, les feuilles de blé si elles ne sont pas mangeables, ou enfin, etc. etc. Tout ce qui est déchets alimentaires crus ou cuits, mais gorgés d'eau.
Okay.
Et les mélanger avec pour que ça soit au contact des autres. On est dans une période qui est bizarre, parce que tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant Il y en a une partie qui reste valable et puis il y en a d'autres, on se pose des questions sur l'avenir du système.
Oui, l'avenir du système, je pense que le système a un avenir, mais c'est la modification du système
modification
qui nous
pose. Modification du système, modification des comportements, des modes. C'est pour ça qu'il sera intéressant, on vient tout au début, c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des contacts avec des professionnels du maraîchage, hein, parce qu'eux cumulent tous les emmerdements, hein, parce qu'il y a la demande, demande. Ils sont contraints et forcés par la demande, hein, mais par contre, ils sont contraints et emmerdés par les conditions de culture, qui sont de plus en plus difficiles. Hein. C'est, je le répète, c'est moins contraignant pour le jardin d'ornement.
Et encore, je veux dire, s'il y a peu, on ne peut pas les arroser.
Mais on peut toujours se retourner sur des plantes qui sont peu exigeantes en eau.
Donc d'aller vers un jardin sec.
Un jardin où on met des plantes. Alors, le problème, c'est que là, on a, excusez-moi l'expression, mais on a le cul entre deux chaises parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, j'entendais, c'est hier ou avant-hier, le prix Nobel là, d'écologie, là, Jean Huizel, un des types qui parle souvent du comité pour le climat. Là.
Du GIEC.
Du GIEC, voilà, je cherchais le mot. Et qui disait que c'était pas gagné, quoi. Il y a plein de choses qu'on savait pas. Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. C'est le changement climatique qui va se faire d'ici 10 ans ou d'ici 30 ans ou d'ici 100 ans pour arriver à ces conditions extrêmes. Combien de temps ça va mettre? Quand?
Quand on voit les prévisions du GIEC, il semblerait quand même que...
2050.
Oui, mais là, on est dans un phénomène d'accélération.
Oui.
C'est-à-dire
oui,
que ce qu'ils avaient prédit était correct.
Ça a été plus vite.
Mais ça a été plus vite que prévu.
Mais, il l'a dit, est-ce que maintenant, ça ne va pas ralentir?
Exactement, on ne sait pas.
Est-ce que l'année prochaine, ça va être comme cette année? On n'en sait rien. On est incapable de le prévoir. Est-ce qu'on va avoir un hiver froid ou un hiver doux? Est-ce qu'on va avoir un hiver froid ou un hiver doux? On n'en sait rien.
Oui. Et par contre, il y a quand même des choses. Là, ce matin, je regardais, j'ai vu des photos de Phuket où j'ai vécu pendant quelques années, complètement inondées.
Oui.
Apparemment, j'ai vu aussi en Australie, complètement inondées. Donc, il y a évidemment ces sols qui sont super compacts, comme on disait tout à l'heure, eux n'arrivent pas à absorber.
Ils n'arrivent pas à tout avaler. Parce qu'ils ont pas. Les gens ont arrêté de les travailler. C'est du béton.
Oui.
Non, déjà, dans une situation qui n'est pas... Moi, personnellement, je ne le verrai pas. Hein, bon. Mais on peut se poser la question sur qu'est-ce que les gens mangeront dans 20 ou 30 ans. Est-ce que... Je disais un truc l'autre jour, là, en Provence, avant, ils cultivaient des fèves et des...
Des pois chiches.
Pois chiches.
Voilà. À Roquebaron. C'est les pois chiches.
C'était la base de l'alimentation en Provence. Et certainement pas qu'en Provence où il y avait des
Non, tu regardes dans le Tarn, c'était quoi?
Le haricot. Haricot blanc. Moi, je me souviens quand j'étais môme, avec mon grand-père, on récoltait les haricots, on faisait des bottes, on les accrochait sous le toit, séchait, puis l'hiver, on écossait les haricots et on mangeait des haricots blancs.
C'est comme le pâté, la caillette. Selon la région, parce que ça part d'en dessous de Lyon et ça descend pratiquement jusqu'à Nice. Selon la région, il y en a qui utilisent de la blette, il y en a qui utilisent de l'épinard, etc. Ça dépend selon la région
du légume disponible.
Ouais.
Là, c'est tout. Et je pense que on l'a vu cette année. Hein. On l'a vu cette année. Moi, j'ai vu des légumes sur le marché de Carcès et pas que là, hein, même dans certaines grandes surfaces, moins. Peut-être parce qu'ils sont peut-être moins regardants sur les fournisseurs dans les grandes surfaces. Donc, on ne sait pas trop comment c'est produit, quelquefois. J'ai vu des courgettes qui faisaient 10 cm et ou dures comme du béton ou à moitié pourries. J'ai vu des aubergines dont la peau, on avait du mal à l'enlever au couteau. Hein. Les poivrons,
oui, ils ont bien tenu.
Moins sensibles. Quand je regarde les potagers alentour, m'aperçoit que les tomates étaient grillées, les aubergines avaient une sale tête, et les poivrons s'en sortaient très très bien, les feuilles étaient très vertes. Donc, il y a des légumes qui passent un peu au travers de ces... Est-ce que ça durera? On ne sait pas. Parce que si ça continue, si ça s'accélère, peut-être qu'ils ne résisteront plus eux non plus. Non, il y a un sacré problème qui se prépare.
Bien. Okay. On va conclure?
D'accord, on conclut. Ça dit, tu conclus?
Non, tu conclus. Allez, on conclut. Allez, conclusion. Et là, cette fois-ci, moi, je suis à la chicorée. Et toi?
Moi, je suis au vide.
Au vide, voilà, le grand vide, voilà. Il rencontre la chicorée.
Ce n'était que du café, hein. Ouais. Ne vous méprenez pas.
Bien, à bientôt.
À bientôt.
Bisous,
d'ici 15 jours, on vous recose.
Ciao.